Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglot, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktree Bio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafu ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produit de grande qualité assuré. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés d'Éric Grange. Bonjour Éric.
Bonjour Evelyne et bonjour à tous.
Comment vous allez?
Eh bien, ça va bien, tranquillement, dans ce début d'année.
Oui, c'est une chance d'ailleurs, c'est le premier podcast enregistré en 2024.
Merci, c'est de bon augure.
Je vais vous présenter, bien sûr, pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Présenter en quelques lignes aussi votre parcours, mais bien sûr, après, je vous laisserai vous présenter et nous parler aussi de tout votre cheminement. Vous êtes le directeur fondateur de l'agence de voyage Oasis, l'éveil au monde, une référence en matière de voyage initiatique. Alors, j'aimerais beaucoup appuyer cette présentation sur le fait que vous soyez un globe-trotteur passionné par les traditions spirituelles du monde.
C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon agence Oasis l'éveil au monde au pluriel, parce que je parle des différents mondes qui sont autour de nous. Et effectivement, j'ai toujours été fasciné par la planète. Et dès que j'ai pu, j'ai voyagé. Et en fait, quand je regarde mon cheminement, au début, je voyageais pour les paysages, voir le Grand Canyon, ça m'épatait. Et après, je me suis mis à voyager pour les humains, c'est-à-dire les tribus, tout ça, les Maasai par exemple, ça m'intéressait énormément, plus que les paysages. Et après, il y a eu une évolution, mais je m'en suis rendu compte après, je me suis intéressé à ce qui était l'universalité entre tous ces humains. En fait, ce que j'aime dire, ce qui n'est plus humain dans l'humain. Et ça m'a ouvert les voies de la rencontre avec des chamans, des grands prêtres, des brahmanes, des personnalités spirituelles. Et là, ça a été mon chemin. Et je peux dire que mes expériences de croissance personnelle, mais au sens fort du terme, au sens existentiel, spirituel du terme, c'est grâce à mes amis du monde que je les ai eus. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'emmener des gens à l'étranger pour les rencontrer et puis après à partager par les livres pour les gens qui n'ont pas forcément la capacité de voyager.
C'est un très beau parcours en tout cas, mais vous êtes d'ailleurs, vous avez eu envie d'écrire hein, parce que vous êtes auteur de nombreux ouvrages tels que « Et mon cœur se remit à battre » et « Mon cœur attira les richesses du monde » mais aussi « L'oracle des lieux sacrés ». Sans oublier votre dernier ouvrage, 365 messages d'amour pour notre Terre.
J'ai toujours été touché par les messages des personnes qui, à travers les témoignages ou les témoignages de gens qui ont voyagé à mes côtés, me disaient « Ah, c'est bien, mais moi, j'ai pas le temps, ou j'ai pas les moyens, ou j'ai mes parents, ou j'ai les enfants. » Et du coup, je me suis dit « Eh bien, je vais transmettre par le livre, ce que j'ai vécu. » Et mon premier roman, Et mon cœur se remit à battre, c'est un roman très autobiographique, c'est-à-dire il raconte comment j'ai pu accéder à une guérison à travers différentes rencontres dans le monde. Et il s'est passé quelque chose de très particulier, c'était que je me demandais comment j'allais pouvoir gérer la sortie de ce livre et mon agence de voyage. La vie s'est occupée de ça pour moi, puisqu'elle a inventé le Covid. On n'a plus voyagé du tout. Mon livre est sorti à ce moment-là. Et en fait, il s'est très bien vendu, puisque ça a été un best-seller qui a été ensuite édité en livre de poche. Donc, pour un premier roman, j'étais comblé. Et il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par les aventures de mon personnage, qui, avec ses rencontres auprès de personnalités spirituelles du monde, a pu aller à l'exploration de ce qui était un appel d'harmonie dans son cœur, son corps et son esprit. Et je suis très heureux de ce livre, qu'après j'ai continué avec le tome 2 et mon cœur attira les richesses du monde, toujours autobiographique sur la manière que j'ai eue de créer mon agence de voyage, moi qui n'avais pas du tout l'expérience de l'entrepreneuriat. C'était un monde tout à fait nouveau pour moi. Quels principes je me suis appliqué pour ça, et du coup j'ai écrit ce livre. Et effectivement, les livres ayant bien marché, Hachette m'a téléphoné en me disant: on vous propose de faire un oracle. Au début, j'ai dit, c'est pas trop mon truc, quelle idée saugrenue. Et 2 mois après, je les ai rappelés, je leur dis, ben, j'ai réfléchi et j'ai trouvé un concept qui pourrait s'appliquer à cet oracle, hein, en reliant chaque carte à un lieu sacré, mais aussi à un rite sacré, et surtout, parce que je veux amener ce voyage initiatique à la maison pour les gens qui ne voyagent pas ou qui ne voyagent pas forcément, transposer le rite sacré autochtone, donc in situ, sur place, par un petit rituel que l'on peut faire chez nous en Occident avec les ressources que nous avons là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer cet oracle des lieux sacrés. Ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il a été illustré, il y avait les cartes, il y avait ce qui était mentionné sur les cartes, le message lumineux, prophétique, une bénédiction, voilà, ou une révélation. Et à côté de ça, écrire dans le livret, quel était le lieu, présenter le lieu, écrire une visualisation pour que le lecteur puisse vraiment s'immerger dans ce lieu, et proposer un petit rituel dans le prolongement de la carte qui a été tirée, avec tout ce qu'on a chez nous, quoi, mais en reliance avec les énergies du lieu sacré qui peut être de l'autre côté du monde.
Wow. En tout cas, c'est très inspirant, mais on reviendra après. Justement, j'avais une question sur un lieu sacré en particulier, mais j'avais aussi quelque chose justement à partager. Vous citez cela, voyager en conscience, c'est grandir en
Ouais.
amour. J'ai trouvé ça très joli. Est-ce que vous
Oui,
pouvez nous en dire plus?
ça c'est ma devise qui m'est venue dans les années 2000. Et en fait, elle n'a pas pris une ride pour moi. Elle nourrit ma vie. Voyager en conscience, voyager dans la conscience, dans la conscience qui nous traverse, qui est à la fois à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et je me suis aperçu que cette conscience que je peux percevoir comme un projecteur de lumière que l'on va peut-être aller braquer sur certaines parties de notre humanité, eh bien, cela permet une transmutation, cela permet un processus, cela permet quelque chose. Je fais exprès de prendre des mots un petit peu vagues, parce qu'il y a quelque chose qui pour moi est mystérieux là-dessus et que je tiens à laisser mystérieux et qui va transmuter une mémoire en fonctionnement disharmonieux, répétitif, quelque chose comme ça, et au bout du compte, créer une capacité d'amour agrandie à la place. Et c'est pour ça que voyager en conscience, c'est grandir en amour. Je rechoisis chaque jour cette devise. À aucun moment, j'ai eu envie de la changer. Donc, elle est tout le temps sur les textes de mon agence. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. C'est vraiment presque, je dirais, enfin presque, je peux enlever le presque, c'est l'axe de ma vie. C'est, et peut-être est-ce un axe universel.
Et ça apporte un autre regard sur le voyage, finalement. Le voyage aussi peut nous permettre d'évoluer intérieurement, spirituellement, et non pas que voyager sur le plan esthétique. Je veux dire,
Bien
il y a
sûr.
vraiment autre chose, et c'est ce que vous permettez aussi avec votre agence Oasis. Peut-être pour revenir sur l'agence de voyage, est-ce que vous pourriez nous faire une présentation? T'as des voyages que vous avez mené, organisé?
Alors, le tout premier voyage que j'ai organisé, c'était à Bali. À l'époque, je sortais d'une formation avec une intervenante et je lui ai dit, mais tu sais, je sais monter des voyages. Elle me dit, ben écoute, dans ce cas-là, essayons de faire un voyage quelque part. Je lui dis, ben où on va? Elle m'a dit, soit Bali, soit le Bhoutan. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Et j'ai dit, bon, ben, allons à Bali. Donc, je suis allé en repérage à Bali, avec quelques contacts qui se sont révélés très précieux. Et j'ai monté un parcours d'expérience spirituelle à la balinaise. C'est-à-dire que le premier jour, on apprend aux voyageurs comment se comporter dans les temples, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, comment il convient de s'habiller et pourquoi on s'habille comme ça, pourquoi on fait le nœud sur le côté gauche pour les hommes, côté droit pour la femme, etc. Et après, donc, habillé en tenue traditionnelle, les gens vont se purifier dans les eaux sacrées du grand volcan Agung, donc les grandes sources sacrées, se purifier sur les 13 sources sacrées qui sont les 13 segments de vie selon la religion balinaise, enfin la religion balinaise, l'inspiration balinaise, c'est-à-dire la prospérité, la santé, la paix avec les voisins, la paix avec les ancêtres, la vie sentimentale. Donc on va tout habiller avec les tenues traditionnelles sous les eaux sacrées, réciter des mantras, et après on reçoit une bénédiction du grand prêtre dans la partie supérieure du temple. Ça, c'est le début d'un voyage. Et après, on rencontre des médiums, des brahmanes, on fait des rituels à Ganesh. Et c'est tout un parcours que je trouve absolument fabuleux. Et à l'issue de ce premier voyage, qui a très très bien marché, puisqu'on a eu 30 personnes tout de suite, et j'ai dit, mais ça, c'est ce que j'ai envie de faire depuis toujours. Et c'est de là où j'ai créé mon agence et qui s'est assez vite développée.
Waouh. Merci pour ces explications. Alors, je voulais aussi donc revenir. Tout à l'heure, on parlait aussi des lieux sacrés. Justement, vous nous parliez aussi de l'oracle, hein, des lieux sacrés. Est-ce que vous pourriez nous en partager un en particulier? Alors, j'avais un peu regardé sur les images et il y en a un qui m'était revenu, c'est l'ermitage de Galamus à Saint-Paul-de-Fenouillé.
Ah oui, l'ermitage de Galamus, effectivement. Je pense que je ne l'ai pas dans l'oracle parce que l'ermitage de Galamus, j'ai écrit dans le livre que j'ai co-écrit avec Aurélie Aimé, qui est 50 lieux sacrés en France, où effectivement j'ai écrit sur cet ermitage et la façon de le visiter, parce qu'en fait c'est un lieu d'une grotte, une grotte naturelle, où il y a une vierge, et dans cet endroit qui n'est pas très facile d'accès, puisqu'il faut descendre une falaise. Bien sûr, maintenant, c'est très sécurisé, mais enfin, ça demande un relatif effort, surtout pour remonter. Et nous avons là un lieu qui est, pour moi, dans un silence assez profond et dans lequel, en termes d'expérience en conscience, j'ai eu envie de faire donner un concert de harpe avec une artiste qui s'appelle Ronia. Et je trouve que ce lieu se prête bien à quelque chose qui est très intimiste, qui invite vraiment à se recueillir, à se recueillir dans le sens aller au fond de soi. Et il y a quelque chose de très doux, une énergie très féminine. On parle du féminin sacré, il y a beaucoup de stages sur le féminin sacré qui passent à cet endroit-là. Mais dans mon ressenti, il y a quelque chose de très doux, de très tendre, et qui nous invite à aller vers les parties de soi-même qui se sentent appelés pour ça. C'est-à-dire que chaque fois que je suis dans ce lieu et que je rentre dans ce recueillement, c'est curieux, mais je vois apparaître en moi une, on va dire, une dimension qui a été peut-être blessée, qui est encore peut-être en souffrance, alors que je ne la demande pas forcément. Ce n'est pas quelque chose de volontaire de ma part. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait de l'ombre pour dire « Coucou, je suis là. Est-ce que je peux recevoir une bénédiction ? Est-ce que je peux recevoir une tendresse en amour ?» Parce que voilà, dans cette partie souffrante, ça va souvent avec une partie qui se sent pas forcément aimée, parce que pas forcément lumineuse, rayonnante, etc. Et pourtant, c'est la partie qui a le plus besoin d'amour. Et ça, c'est mon expérience que j'ai de Galamus. Et à chaque fois, j'ai dû y aller, je pense, 4 ou 5 fois. J'ai eu cette même expérience qui m'est venue au-delà de ma volonté, comme je disais.
Je vous laisse choisir une carte alors de l'oracle.
Eh ben, dites-moi en numéro. On va pas faire en numéro. Je vais les mettre comme ça, et puis vous me dites stop et
stop.
Hop. Alors là, ah oui, la porte de Shambhala. Et là, c'est marqué « Tout est déjà là ». Voilà. Alors, Shambhala, c'est un lieu qui se trouve en Mongolie. C'est assez loin d'Oulan-Bator. Ça veut dire qu'il faut à peu près 2 journées de voiture pour y arriver, à travers la steppe. Et nous arrivons dans un lieu qui est très fréquenté par les Mongols. C'est-à-dire qu'il y a comme je l'ai montré, des stupas. La terre est très, très rouge, vraiment. Et c'est un lieu de pèlerinage où vont régulièrement les Mongols pour se recueillir. Alors, les stupas sont bouddhistes, mais pour moi, l'énergie qui est là est beaucoup plus universelle, on va dire. Et c'est un lieu où je suis allé une fois avec un groupe et on s'est en fait allongé, donc le tronc face à la terre pour être en communion avec les énergies du lieu. Et j'ai ressenti ce message, tout est déjà là, tout est déjà là. C'est-à-dire que ce que l'on croit qui n'est pas là n'est que le produit de notre imagination ou de notre dialogue intérieur, mais que si on écoute ça et qu'on laisse ce mental nous raconter l'histoire qu'il a envie de se raconter, il y a un espace où tout est déjà là depuis longtemps et pour longtemps. Et pour moi, cet espace-là, c'est le grand cadeau des voyages parce que, en tout cas, dans mon témoignage, il y a des lieux où il m'est plus facile d'accéder à cette dimension de tout est déjà là qu'ailleurs. Même si on sait que cette dimension, elle est partout, simplement, il y a des lieux qui, par leur cadre, leur ampleur, je dirais leur paisibilité, leur paix, leur sérénité peut-être, et parce qu'ils ont aussi traversé les siècles, renvoie à quelque chose qui nous nourrit et qui est apaisant. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu garder de Shambhala. Et donc dans l'oracle, et ben il y a le petit livret où je dépeins justement le lieu pour les gens qui les connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup. Et à côté, ben je propose un petit voilà, page 146, je propose un petit rituel, c'est-à-dire qu'en fait, hop, si je prends la page 146, voilà, donc c'est un lieu que j'ai appelé Reliance. Pour moi, il est vraiment relié à, enfin, il nous relie vraiment à quelque chose de plus que nous. Il y a une petite visualisation Et le petit rituel est très très simple, vous allez voir. On peut le petit rituel qui pour moi est inspiré de Shambhala. Je ferme les yeux, j'inspire profondément. Sur l'expiration, je ne cherche rien, je me relie simplement à mon être profond. Puis je me connecte à tout le vivant qui m'entoure, végétaux, animaux, minéraux, et je ressens la symbiose entre tout ce qui est. Je prends conscience de la puissance de la présence pure, source de bonheur et de joie profonde. Voilà comment ramener Shambhala à Lyon, en Normandie, ou partout où on est. Quoi.
Partout avec nous. Oui, mais d'ailleurs, ça m'évoque aussi la citation dans l'ouvrage 365 messages d'amour. Donc, c'est Hervé Sumuna Nogo. Alors, je ne vais peut-être pas bien le prononcer, mais Ngoto, où il y a cette citation « Plus nous protégeons la nature et plus la nature nous protège ».
Oui, elle est très belle, celle-là. Je l'ai sélectionnée parce qu'effectivement, elle est pleine de sens. Et en plus, pleinement actuelle.
Oui, complètement. Complètement, elle fait sens. Donc, c'est vraiment être dans le remerciement et puis aussi la protection de... Parce que nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Et bien souvent, c'est vrai qu'on se déconnecte facilement hein, avec notre quotidien. On peut vite se créer cette dualité avec l'environnement et nous-mêmes. Alors que ici, l'invitation, c'est vraiment de se relier avec la nature.
C'est ça. Et c'est effectivement dans ma vie, quand j'ai eu en coup dur, je sais que j'ai été en Ardèche, puisque c'est un endroit d'où je suis originaire. Mmh. Et j'étais me relier à une forêt en Ardèche. Et je m'aperçois que le végétal nous protège, nous, voilà, ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de chamanisme du monde, qui se fait pratiquement tout le temps avec la notion du végétal. Bien sûr, il y a aussi les autres règnes, minéraux, animaux, etc. Mais on trouve tout le temps la notion du végétal qui intervient dans les rituels chamaniques.
Alors Eric, est-ce que vous pouvez justement sélectionner une citation, un poème pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Voilà, on a juste à se mettre en pleine présence et à écouter Eric.
Je vais voir si je trouve la petite phrase sur la nature. Je ne l'ai peut-être pas là, mais j'ai trouvé dans mes... En fait, pendant une année, je suis allé dans les bibliothèques, je suis reparti avec des piles de bouquins, et j'ai été chercher des phrases qui me donnaient une émotion spirituelle. Ce que j'appelle une émotion spirituelle, alors cette expression peut sembler un petit peu étrange, quelque chose qui me sorte de ma réalité d'humain et qui, à travers les mots, me met en contact avec ce qui est, on va dire. Et alors j'en ai plusieurs. Christian Bobin a écrit des choses absolument magnifiques. Alors, c'est même très difficile pour moi de sélectionner quelle phrase de Christian Bobin je mettais dans mon livre. Ce matin, j'ai vu une tourterelle battre des ailes à l'instant où elle sortait des mains de Dieu. C'est tellement beau. J'ai trouvé un auteur inconnu qui a laissé ce message. On prend en grande poussière et la vaste terre tout entière y réside. Une fleur ouvre ses pétales et l'univers fleurit avec elle. Et l'univers fleurit avec elle. Il y a des choses qui sont... Enfin, j'ai trouvé vraiment des choses magnifiques, cette prière bouddhiste. Puissent nos pas sur la terre être aussi doux que l'union du papillon et de la fleur.
Oh, c'est très joli, c'est très
amusant. Voilà, je me suis régalé. J'aime dire que j'ai écrit mon propre livre de chevet parce que je crois que je vais être le premier lecteur, ça va être moi.
Mais il y en avait aussi une autre que j'avais relevée. C'était sachant voir à travers les choses de la terre ce qu'elle laisse transparaître du ciel.
Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de textes sur le lien entre le ciel, le ciel et la terre. C'était Victor Hugo aussi qui disait, la terre est au soleil ce que l'homme est. Victor Hugo qui a écrit ça.
D'accord.
J'ai vraiment découvert tellement de perles et beaucoup effectivement dans ce lien entre la terre et le ciel. Khalil Gibran qui disait, les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel. Ça me donne des frissons parce que justement, comment ont pu faire ces personnes-là, les bouddhistes, Victor Hugo, Bobin, pour, avec des mots de tous les jours, nous interpeller sur quelque chose qui est très, très touchant et dont, à mon avis, il est essentiel de se rappeler. C'est pour ça que de cette, on va dire, délectation personnelle des beaux textes, j'ai pris la décision d'en faire un recueil et je l'ai proposé à Guy Trédaniel, que je connais depuis 20 ans. J'ai dit, écoute, j'ai écrit quelque chose. Il m'a dit, je prends tout de suite. Comme on le disait avant l'émission, j'ai parlé de cet ouvrage à Guy en septembre, je crois. Nous sommes en janvier. Il va être en librairie là pour le 18 janvier.
Bientôt.
C'est bah, très rapide.
Comme quoi, c'était très rapide. Et puis aussi, d'ailleurs, il y a des citations, hein, là, on ne les a pas toutes citées, mais Thich Nhat Hanh aussi, le bouddhiste,
oui.
Il y a des belles citations. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qu'on pourrait partager pour clôturer les citations.
Alors, je peux lire celle de Thich Nhat Hanh qui pour moi, est très belle en ce début d'année. Chère mère, tu es notre planète, mère de toutes les espèces, y compris la nôtre, celle des humains. Tes enfants se comptent par milliers d'espèces et chacune a son propre langage. Comme tu es la mère de tous, tu comprends tous ces langages, dont le nôtre. C'est pourquoi il nous est toujours possible, facile et agréable, de converser intimement avec toi et de te prier. Chère mère, donc il parle de la planète, vous avez compris, je m'incline devant toi, empli d'un profond respect, pleinement conscient que tu es présente en moi et que je suis une partie de toi. Tu m'as mis au monde, tu m'offres tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir. Voilà, je l'abrège parce que c'est une des citations les plus longues, elle fait 2 pages. Juste pour la fin, à la lumière de cette sagesse, nous apprenons à t'aimer, à aimer notre Père et à nous aimer. Nous aspirons à être ta belle continuation et à te protéger pour que tu sois toujours là avec nous. Nous prenons refuge en toi, Mère, et tu peux également compter sur nous. C'est Thich Nhat Hanh qui a écrit ça, il a dit ça au village des Pruniers en mai 2012.
Ah oui.
Voilà.
Merci infiniment pour ce partage, Eric. Et pour clôturer cette interview, est-ce que tu souhaiterais, alors je te tutoie, c'est vrai que je t'ai vous voyé.
Avec plaisir, Evelyne.
Est-ce que tu voudrais partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent, en tout cas aux auditeurs, aux auditrices?
Déjà, un petit cadeau pour les auditeurs, si vous allez sur mon site qui s'appelle ericgrange.com, tout simplement, vous pouvez télécharger tous les messages d'amour du mois de janvier. Donc il y a 31 et je dirais que pour clôturer ce moment, j'aimerais tellement que chacun puisse se rappeler que la planète sur laquelle nous vivons est juste un miracle, et que le miracle est partout et on peut s'en émerveiller au quotidien, et c'est cet émerveillement qui nous porte, qui nous nourrit et qui nous rend aimants.
Merci beaucoup, Eric. Et puis, bien sûr, à l'heure où le podcast sortira, l'ouvrage sera déjà disponible dans toutes les librairies, sera aussi disponible en France, ton oracle également. Et puis, bien sûr, je mettrai en bio ton lien, le lien de ton site internet. Et puis également, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent voilà, un peu plus d'aventure, je mettrai aussi le lien vers l'agence de voyage Oasis.
Merci beaucoup. Merci.
Et n'hésitez pas à partager, peut-être commenter. On sera ravis de lire vos messages avec Eric.
Merci. Merci Evelyne de cette invitation. C'était un honneur.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.